Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 29 août 2014, en direct de Washington, Morgane Guiriec et Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, le Sénégal enregistre son premier cas d'Ebola. Il s'agit d'un jeune étudiant guinéen, nous dit la ministre sénégalaise de la Santé.
Cette personne donc a été isolée. Il faut rechercher toutes les personnes avec lesquelles il a été en contact. Dès qu'elles sont malades ou qu'elles ont des signes, les hospitaliser et les prendre en charge.
Nous irons aussi à West Point, le quartier en quarantaine à Monrovia au Libéria, où s'est rendu aujourd'hui l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique.
Le camp de l'ONU, à nouveau la cible d'une attaque de roquettes à Aguelok, dans le nord du Mali.
Tout laisse croire donc que les leaders des groupes armés qui tentent de négocier avec Bamako n'ont aucun monopole des hommes en armes sur le terrain.
L'hôtel L'OTAN appelle la Russie à cesser ses opérations illégales dans l'est de l'Ukraine.
Nous parlerons aussi de la stratégie des États-Unis face à l'État islamique.
Et comme toujours, en fin d'émission, nos pages sport et musique. Pour l'instant, le journal.
Le Sénégal enregistre son premier cas d'Ebola. Il s'agit donc du cinquième pays d'Afrique de l'Ouest à être touché par l'épidémie qui a fait plus de 1500 morts. L'étudiant guinéen est entré sur le territoire sénégalais en échappant à la surveillance des autorités sanitaires dans son pays. C'est ce que nous explique Eva-Marie Kolsek, ministre sénégalaise de la Santé.
C'est le cas d'un jeune étudiant guinéen qui est à l'université à Conakry, qui est venu au Sénégal et qui a omis de dire, si je peux dire, dissimulé le fait qu'il avait été en contact avec des malades d'Ebola. Et donc, il a été pris en charge dans la structure. Mais nous avons eu très rapidement l'information à travers le centre, disons, de suivi en Guinée, qui nous a dit qu'il avait perdu un contact depuis 3 semaines et qu'apparemment ce contact était au Sénégal. Après avoir fait le recoupement, on s'est rendu compte que c'était la personne que nous avions hospitalisée dans l'une de nos structures. Cette personne donc a été isolée. On a continué son traitement. D'ailleurs, cette personne va mieux. Le bilan a été fait à Pasteur et il est revenu positif. Nous menons une riposte par rapport au cas contact parce qu'il faut rechercher toutes les personnes avec lesquelles il a été en contact, les suivre et dès qu'elles sont malades ou qu'elles ont des signes, les hospitaliser et les prendre en charge.
Et toujours au sujet de l'épidémie d'Ebola, quelques 160 personnes ont été placées sous surveillance à Port Harcourt au Nigeria. Cette mesure intervient en réaction au décès d'un médecin dans cette ville du sud. Le premier cas d'Ebola en dehors de Lagos, ces 160 personnes ont été en contact avec le médecin décédé après avoir traité un diplomate de la CEDEAO lui-même en bonne santé après avoir présenté des symptômes d'Ebola.
Les autorités ivoiriennes ont condamné un homme à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir tenté de consommer un rat. Il faut dire que le rongeur fait partie des animaux de brousse pouvant véhiculer le virus Ebola.
Dans le nord du Mali, le camp de la MINUSMA, à nouveau la cible d'une attaque de roquettes à Aguelok. Le point avec notre correspondant à Gao, Bouakar Touré.
Les 8 tirs de roquettes du mercredi dernier sur le camp de la MINUSMA à Aguelok par des groupes armés ont fait réagir le représentant de l'ONU au Mali, Albert Condes, invitant tous les acteurs dans la crise malienne à prendre leurs responsabilités. Albert Condes a rappelé les uns et les autres au strict respect des accords du cessez-le-feu. Voilà, quelques heures seulement après ce communiqué et au lendemain des accords signés entre les groupes armés à Ouagadougou en vue d'amorcer les négociations avec le gouvernement du Mali le 1er septembre prochain à Alger, le camp des forces des Nations Unies d'Aguelok reçoit ce matin encore des tirs de roquettes. Tout laisse croire donc que les leaders des groupes armés qui tentent de négocier avec Bamako n'ont aucun monopole des hommes en armes sur le terrain. Après la mise en garde de l'ONU que certains groupes armés refusent d'entendre, à quelle autre vitesse passeront les forces de maintien de la paix de l'ONU sur le terrain dans le nord du Mali? Gao Boubacar Touré pour la Voix de l'Amérique.
Signalons que les djihadistes ne se reconnaissent pas dans les accords signés à Ouagadougou entre 6 groupes armés en vue de préparer les négociations qui démarrent le 1er septembre avec le gouvernement du Mali.
En RCA, vive tension hier et aujourd'hui dans les deux camps de cantonnement des ex-Séléka à Bangui. Les ex-combattants rebelles sont remontés contre leur leader. Ils dénoncent un mauvais traitement. Le point avec Idriss Fall.
Les combattants de l'ex-Séléka ont manifesté pour attirer l'attention du gouvernement sur leurs conditions de vie et réclamer leur incorporation dans l'armée nationale. Unanimement, ils accusent leurs responsables d'être à l'origine de leur souffrance. Mervin Fendangaï, un des mécontents.
Nous voulons travailler pour le pays. Ils étaient allés là-bas faire une réunion avec les gens là-bas sans autant nous concerter. Rien que leur vœu. Mais pour nous qui sommes là, nous réclamons rien que notre droit qui est légal, quoi. C'est l'incorporation de l'armée centrafricaine pour défendre la patrie. Les conditions du cantonnement ne sont plus réunies.
Au camp Béal, ils ont même séquestré certains de leurs leaders qu'ils ont accusés de détourner les frais de ration alimentaire. Le général Mohamed Moussa Dafan, numéro 3 de l'ex-rébellion, a qualifié cette fronde de manipulation. Par ailleurs, le premier conseiller des ministres du nouveau gouvernement s'est tenu hier à Bangui en présence de la présidente Catherine Samba-Panza. Pour le premier ministre Mohamed Kamoun, chaque ministre est tenu à l'obligation de faire des résultats.
La première tâche à exécuter, c'est de décliner ces orientations en lettres de mission assignées à chaque membre du gouvernement. Et ensuite, mettre en œuvre un mécanisme de suivi, de mise en œuvre de cette lettre de mission. C'est ça qui est très important. Donc, c'est en assurant un suivi qu'on saura si tel ou tel membre du gouvernement a assumé sa mission comme il se doit ou pas.
D'ailleurs, l'équipe de Mohamed Kamoun est baptisée gouvernement d'action et de combat.
Au Cameroun, un hommage officiel a été rendu à 25 militaires tués au cours d'affrontements entre l'armée et des djihadistes nigérians de Boko Haram. La cérémonie, présidée par le ministre de la Défense, Edgar Alain Mbembe Ngo, rendait également hommage à un soldat tué en Centrafrique. Le ministre, cité par l'AFP, a aussi fait savoir que plusieurs dizaines d'islamistes ont été tués ces derniers jours par l'armée camerounaise.
En Afrique du Sud, un Rwandais et trois Tanzaniens ont été jugés coupables de tentative d'assassinat en 2010 de l'ex-chef d'état-major du président rwandais Paul Kagame, un attentat politique commandité au Rwanda, selon la justice sud-africaine Lionel Gaïma.
Six hommes étaient jugés pour cette tentative d'assassinat du général Nyamwasa, âgé de 56 ans et qui vit toujours en exil en Afrique du Sud. Il a échappé de peu à la mort le 10 juin 2010 à Johannesburg, blessé par plusieurs balles dans l'estomac devant chez lui pendant la Coupe du monde de football organisée en Afrique du Sud. Il avait quitté son pays 4 mois plus tôt. Deux accusés ont finalement été acquittés aujourd'hui, dont l'ancien chauffeur rwandais du militaire, un compatriote, tandis que le juge Tanlim Kari a conclu à la culpabilité des 4 autres accusés, 3 Tanzaniens et 1 Rwandais. Les prévenus connaîtront leur peine le 10 septembre, d'après l'AFP, lors d'une audience distincte, comme le veut la procédure pénale sud-africaine. Le président Kagame a toujours nié toute implication, mais son gouvernement est régulièrement accusé d'être derrière les mauvais coups contre ses opposants établis à l'étranger.
Et au Rwanda, l'ancien chef de la garde présidentielle, le colonel Tom Biya Bagamba, et un général à la retraite, Frank Rusagara, sont accusés de propagation de rumeurs visant à provoquer un soulèvement. Le tribunal militaire de Kigali a par ailleurs renvoyé au 5 septembre l'audience de demande de remise en liberté.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Voilà, il est 19h39 en temps universel. L'OTAN a appelé la Russie à cesser ses opérations illégales dans l'est de l'Ukraine. Des précisions avec Sarah Diaby.
Le chef des opérations de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a déclaré qu'il est désormais clair que les troupes et de l'équipement russe ont franchi illégalement la frontière dans l'est et le sud-est de l'Ukraine. M. Rasmussen a également déclaré que Moscou a procédé à des tirs sur l'Ukraine depuis la Russie et au sein même de l'Ukraine où l'OTAN estime qu'il y a au moins 1000 soldats russes. Il a ajouté que la Russie maintient par ailleurs des milliers de soldats près de la frontière. Ces commentaires suivent ceux des autorités de Kiev qui avaient affirmé que des soldats et de l'armement russe avaient traversé la frontière et que des blindés russes avaient encerclé la ville de Novoazovsk. Moscou a nié à plusieurs reprises ces accusations. Dans un communiqué, le président russe Vladimir Poutine a appelé aujourd'hui les séparatistes pro-russes à ouvrir un couloir humanitaire pour éviter des morts inutiles.
L'offensive de l'armée syrienne se poursuit à Damas. Les forces gouvernementales ont pilonné le quartier de Jobar. Jobar qui est aux mains des insurgés depuis un an. La guerre entre les rebelles et le régime s'est doublée d'une montée en puissance de l'État islamique. Plus de 3 millions de personnes sont réfugiées et 6,5 déplacées à l'intérieur du pays, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Et puis plus d'un million et demi de personnes ont également été déplacées par les violences en Irak cette année, dont 850 000 durant le seul mois d'août au cours duquel les djihadistes de l'État islamique ont étendu leur offensive, ce que rapporte l'OIM, l'Organisation internationale des migrations.
La Grande-Bretagne a relevé son niveau d'alerte terroriste ce vendredi de substantiel à grave. Pour le Premier ministre David Cameron, le discours poisonneux islamiste extrémiste est un gros problème pour son pays et le monde entier. Le ministre de l'Intérieur britannique, Theresa May, a assuré qu'il n'y avait pas d'informations soutenant qu'une attaque était imminente. Cameron affirme que les terroristes ont perverti la foi islamique pour promouvoir leur agenda violent.
Crise au Proche-Orient, des milliers de combattants et de sympathisants du djihad islamique ont participé dans la rue de Gaza à une parade militaire aux allures de démonstration de force, trois jours après l'entrée en vigueur d'un accord de cessez-le-feu illimité ayant mis fin au conflit avec Israël. Masqués, arborant tenue militaire en kaki et fusils d'assaut ou armes au poing, ils ont défilé en brandissant plusieurs roquettes similaires à celles tirées sur Israël durant la guerre. Le djihad islamique est la deuxième force combattante de Gaza derrière le Hamas.
Les États-Unis ont annoncé vendredi des sanctions supplémentaires contre l'Iran visant des entités, entreprises et individus accusés de favoriser le programme nucléaire controversé de Téhéran et de soutenir le terrorisme. Dans des communiqués simultanés de la Maison-Blanche, du Département d'État et du Trésor, Washington assure que dans le même temps, poursuivre la recherche d'une solution négociée au dossier nucléaire iranien. Voilà pour le journal. Au micro, Morgane Guiriec et Bagessi Koura, en direct de Washington. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. On enchaîne sur la partie magazine de notre émission. Épidémie d'Ebola, le Libéria voisin est l'un des pays les plus touchés, Bagessi.
Oui, la présidente Ellen Johnson Sirleaf a décrété l'état d'urgence. Les écoles sont fermées, plusieurs compagnies aériennes ont cessé de desservir Monrovia, la capitale, et West Point, quartier populaire de la capitale libérienne, est mise en quarantaine. Et il y a quelques instants, j'ai joint à West Point justement notre envoyé spécial Anne Luc.
Les gens, ils sont toujours un peu inquiets là-bas, à propos de la nourriture, à propos des médicaments, à propos du manque de soins de santé. Il y a toujours un centre de santé là-bas. J'ai parlé avec des infirmières là-bas, que même avec les Ebola, même les gens, ils ont peur même de venir au centre de santé. Alors moi, ce que j'ai ressenti dans les rues de West Point, c'est que les gens, ils sont inquiets. Et j'ai parlé avec quelques jeunes qui sont toujours frustrés avec le gouvernement, avec cette réponse. Ils trouvent un peu trop dur, un peu trop difficile. Et aussi, moi, j'ai suivi quelques équipes de volontaires de la communauté qui étaient là en train de chercher des malades dans les quartiers. On passait dans les maisons à maisons pour demander à chaque personne, est-ce que vous avez des... On ne parle pas d'Ebola, mais est-ce que vous avez des gens qui ont de la fièvre? Est-ce que vous avez des gens qui ont la diarrhée? Est-ce que vous avez quelqu'un qui a le palu ici? Là, ils ont pu identifier quelques personnes que... Après, ce sont des services de santé qui vont essayer de faire le suivi de ces cas-là.
Le gouvernement veut donc lever cette mesure d'isolement?
Je viens de parler avec le gouvernement, la porte-parole du gouvernement. Ils me disent que maintenant, ils sont en train de revoir la situation. Ils ont dit que le cordon sanitaire sanitaire, c'était nécessaire pour lui, il a dit, de choquer la population, d'essayer de faire comprendre que c'est une situation très très sérieuse et il faut le prendre sérieux. Maintenant, ils ont évalué la situation, le ministre de la Santé, il était là dans le quartier ce matin et eux, ils se disent satisfaits de la mobilisation qu'ils sont en train de voir dans le quartier. Ils disent qu'ils sont en train de regarder maintenant, est-ce qu'ils vont peut-être lever ce cordon sanitaire et avancer à d'autres choses. Je pense aussi que le gouvernement a compris.
Concrètement, quand on parle de cordon sanitaire, est-ce qu'il s'agit de barbelés, d'une sorte de barrière? Est-ce que ce sont des soldats qui forment ce cordon? Décrivez-nous un peu c'est quoi ce cordon-là et c'est sur combien de kilomètres?
Oui, en fait, c'était des polices qui étaient sur le terrain. Et oui, ce sont des barbelés qui font le périmètre du quartier. Mais en fait, il y a une petite zone, une zone de buffer, une zone où les familles, les parents des gens qui sont à l'intérieur, ils peuvent venir pour essayer de livrer de la nourriture, des autres affaires aux gens qui sont à l'intérieur. Alors, ce n'est pas comme s'ils sont coupés du monde totalement. Il y avait un système en place pour essayer de laisser les parents donner des choses aux gens qui sont à l'intérieur, etc. Mais ce sont des barbelés. En fait, nous, l'armée était là pour soutenir les polices pendant quelques jours. Mais hier et aujourd'hui, ce que moi j'ai vu, c'était seulement les polices sur le terrain.
On nous dit que West Point est un quartier extrêmement pauvre.
Oui, c'est un quartier pauvre. C'est un quartier où vous pouvez avoir une dizaine de personnes qui dorment dans la même chambre. Et vraiment, pour moi, visiter le quartier, j'ai beaucoup marché dans le quartier. C'est coincé comme tout, c'est très peuplé. Il y a beaucoup de monde qui vit là-bas. Et les maisons sont côte à côte, c'est les chambres côte à côte, à côte à côte. Et même quand j'ai parlé avec le gouvernement cet après-midi, ils m'ont dit même que c'était ça un peu la motivation pour le cordon sanitaire pour ce quartier.
Voilà, c'était donc Anne Luc, notre envoyée spéciale à Monrovia, au Libéria. Vous écoutez le monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. À présent, un mot sur la crise malienne, sur la route d'Alger pour les discussions avec le gouvernement malien. Le groupe politico-militaire du nord du Mali ont fait une halte à Ouagadougou afin de s'entendre et de s'unir pour parler d'une seule voix autour de la table de négociation à partir du 1er septembre. Un reportage de Zoumana Onogo à Ouagadougou.
Depuis le déclenchement de la crise au nord Mali, les groupes politico-militaires y ont poussé comme des champignons et ce n'est pas toujours le parfait amour entre eux. Faut-il aller à la table des négociations en Algérie, en mosaïque ou en rang serré? La deuxième option a été retenue et a fait l'objet d'une rencontre de 96 heures sanctionnée par un communiqué final. Suivons les grands traits avec le professeur Ould Sidi Mohamed du MAA, Mouvement des Arabes de l'Azawad.
Les partis ont reconnu la légitimité de la lutte que mène le peuple de l'Azawad Nord-Mali pour jouir d'un statut spécifique conforme à ses réalités géographiques, économiques, sécuritaires, sociales et culturelles. Aussi, les partis sont convenus de l'arrêt des hostilités et toute forme de violence entre tous les fils de l'Azawad Nord-Mali et s'engagent à favoriser un climat de paix et à le consolider.
Pour aboutir à ce communiqué final, que ce fut dur. On écoute Ibrahim Kantao de la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance. Numéro 2, il s'en défend.
Si l'on veut être dans une logique d'une paix durable, d'une entente durable et définitive entre tous les mouvements, il était important qu'on prenne le temps de s'expliquer et de faire en sorte que chacun comprenne le sens du combat et que l'on s'engage définitivement vers une unité d'action. Avec la signature de cette déclaration, qui regroupe tous les mouvements, qui pour la première fois ont accepté de se mettre ensemble, moi je crois que c'est un événement important. Beaucoup pensaient qu'on n'allait pas le réussir.
Cette fois, de cette unité retrouvée des groupes armés que Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la coalition du peuple de l'Azawad CPA se projette dans les négociations en Algérie.
C'est essentiellement autour de ce qui pourrait être le statut des régions que nous appelons Azawad. C'est de ça que nous allons discuter à Alger. La forme de gouvernance qui va être adaptée et qui va être une réponse à nos spécificités culturelles, sociales, économiques et sécuritaires, c'est de ça que nous allons parler à Alger. Il y a deux principes aujourd'hui qui sont acceptés par les mouvements. Le principe de l'intégrité territoriale du Mali et la laïcité. Ça, c'est un acquis. Maintenant, pour nous, tout le reste est négociable parce que pour nous, la paix n'a pas de prix. Si c'est une large autonomie de l'Azawad qu'il faut pour que cette région connaisse et que ses fils vivent la paix, nous allons le chercher et nous le cherchons.
Zoumana Onogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Au Congo, l'opposition crie à la trahison après l'adoption à l'Assemblée nationale d'une nouvelle loi électorale amendée. Il est reproché au gouvernement de ne pas respecter les accords de Dolisi. On écoute Clotaire Mboussaïla, le président du comité d'action pour le renouveau.
La loi électorale telle que adoptée par l'Assemblée nationale, la loi qui nous conduira aux élections locales, c'est pour le 28 septembre 2014. Cette loi ne garantit pas la transparence ni le caractère indépendant de la commission qui sera mise en place. La concertation de l'Olivier avait décidé de la mise en place d'une commission électorale indépendante. Mais quand tout attend, ce qu'ils votent à l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est que la compétence des élections revient au ministère de l'Intérieur. Alors, comment on peut parler de la transparence et la démocratie, c'est quand les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur lui-même, alors que, contrairement à ce qu'il dit, ce qu'on avait décidé, c'est que la commission elle-même, c'est-à-dire refonder la commission dissoute, la CONET devait être dissoute, et on mettrait en place une nouvelle commission électorale indépendante par rapport à ce que nous avons décidé tous ensemble.
Comptez-vous prendre part à ces élections ou non?
Nous avons bien voulu une commission électorale indépendante, nous avions bien voulu que la CONET qui existe actuellement soit mise à plat, et ce que nous sommes convenus, et que contre toute attente, le pouvoir veut faire un passage en force, je crois que ça ne doit pas. Si nous voulons conserver la paix, si nous voulons la paix, je crois qu'il faut éviter toutes choses qui ont tendance à pouvoir mettre mal à l'aise le peuple. Parce que le peuple veut de la paix. Si on veut de la paix, je crois qu'il faut éviter tous les dessins qui consistent à s'imposer par la force pour conserver le pouvoir. Donc, nous en tirerons les conséquences. Je crois quand même nous sommes une opposition responsable. Je crois que dans les jours qui suivront, avant les élections, je crois que nous adopterons une position.
Voilà, c'était Clotaire Mboussaïla de l'opposition congolaise, joint à Brazzaville par Jean-Roger Billon.
Voilà, quelle est la stratégie des États-Unis face à l'État islamique? Barack Obama a reconnu hier qu'elle n'est pas clairement établie, qu'il ne faut pas s'attendre à des frappes aériennes à court terme en Syrie. Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, le président a promis de consulter le Congrès. La Syrie est plus complexe que l'Irak pour les Américains. Nicolas Pino a joint Mathieu Guider, il est islamologue, il est enseignant aussi à l'Université de Toulouse.
Il faut se rappeler, quand il s'agit du champ de guerre syrien, la Russie a toujours mis son veto et elle refuse toute intervention de quelque nature que ce soit. Elle continue même de soutenir le régime Assad avec des armes et la quasi-totalité des coalitions potentielles sont toujours engagées en Syrie. De l'autre côté, en Irak, la situation n'est pas la même puisqu'on a un vote du Conseil de sécurité quasiment unanime pour se battre contre l'État islamique et pour neutraliser l'État islamique en Irak. Et donc, il paraît aujourd'hui très difficile à l'administration américaine de rechercher la coalition la plus large dans la région concernant l'État islamique sans froisser ceux qui n'ont pas changé de position, à savoir l'Iran, le Hezbollah et la Russie.
Après les louanges très négatives à propos de la menace imminente de l'État islamique, est-ce que finalement les Américains n'ont-ils pas à renforcer l'attrait de ce groupe djihadiste?
C'est effectivement le risque. Le risque était double. D'un côté, en se focalisant sur ce groupe-là et en lui donnant une publicité internationale, une aura internationale, eh bien, on renforce son attrait et on renforce sa notoriété et son attractivité au sein au moins des djihadistes. Mais en même temps, il n'était pas possible de faire autrement si l'administration américaine voulait véritablement avoir le consentement et faire pression sur les pays de la région et en particulier sur le gouvernement irakien pour intervenir en Irak.
On parle de l'État islamique comme un groupe au potentiel jamais égalé. Est-ce vrai selon vous?
Non, je crois qu'il y a de l'exagération du point de vue de l'administration américaine sur cette affaire-là. Mais c'est tout à fait de bonne guerre puisque à chaque fois que l'armée américaine a voulu intervenir quelque part, elle a accentué, aggravé le potentiel de l'ennemi. On se souvient que l'Irak, juste avant l'intervention en 2003, était la quatrième armée du monde. Or, c'est une armée qui s'est écroulée en 2 semaines face aux Américains. On se souvient qu'Al-Qaïda était la menace mortelle des États-Unis. Or, depuis le 11 septembre, il n'y a strictement pas de menace réelle contre le territoire américain. Cela n'enlève rien au fait que l'État islamique, aujourd'hui, est clairement en train de prendre de l'ampleur et, pour ainsi dire, de remplacer Al-Qaïda à la fois dans les réseaux djihadistes et bien au-delà de constituer une menace de plus en plus contre les intérêts occidentaux dans la région.
Voilà, c'était Mathieu Guider, il est islamologue et enseignant à l'Université de Toulouse. Voilà, vous écoutez Le Monde. Aujourd'hui, c'est l'heure des sports et j'accueille Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Bagassi.
On commence par du football, hein, le foot nigérien un peu plus en crise.
Et oui Bagassi, les joueurs et les clubs de football nigérians se sont joints ce vendredi au boycott du championnat lancé par les arbitres alors que la Fédération nationale est agitée par un violent conflit interne. L'Association des footballeurs professionnels du Nigeria a indiqué que ses membres ne participeraient pas aux matchs de championnat jusqu'à nouvel ordre.
En football toujours, hein, la Russie n'entend pas se faire dicter sa loi par la FIFA.
Organisateur du Mondial 2018, Moscou ne tiendra donc pas compte des recommandations de la FIFA quant à la réduction du nombre de villes hautes à 9 au lieu de 11. C'est ce qu'a déclaré le président Vladimir Poutine. Après la Coupe du Monde au Brésil, on se souvient que la FIFA avait recommandé à la Russie une réduction du nombre de stades.
En bref, transfert.
Oui, le milieu de terrain international malien Tongo Doumbia, en provenance de Wolverhampton en Angleterre, s'est engagé avec Toulouse en France pour une durée de 4 ans. Et puis Xabi Alonso, transféré du Real de Madrid au Bayern de Munich, a expliqué aujourd'hui lors d'une conférence de presse avoir été confronté au dilemme le plus compliqué de sa vie en choisissant de quitter le club merengue où il avait prolongé jusqu'en 2016 pour débuter une nouvelle étape en Allemagne.
Et enfin, début demain en Pologne du championnat du monde de volleyball.
Les trois représentants africains sont en piste, le Cameroun, l'Égypte et la Tunisie. Bagassi, le Cameroun qui débute la compétition dimanche face à l'Australie.
Voilà, c'est tout pour le sport. Merci à Nicolas Pinault.
And yes, y'all, you're now rocking with the best black thought from the legendary Roots crew in the flesh. I slid up in here with the brothers from the Marley family, Creston. We gonna set it for y'all. She loves to
party. Voilà, on se quitte en douceur avant le week-end. C'est donc Pimper's Paradise, Damien Marley. She loves to smoke, sometimes shifting coke. She's laughing when there ain't no joke. Hey. Pimper's Paradise. That's all she wants now. Hey. Pimper's Paradise. That's all she wants. Pimper's Paradise. That's all she wants now. Pimper's Paradise. That's all she wants. 'Cause coke was a thing that once she first tried was once a blue moon to once a blue sky. Now she's wondering who else wants to go by. She don't got no money and wants to get high. Story sounds familiar, like bound to be wild, but she's sillier. Not quite the same, but she's similar. A waste of massage to Perilla. Used to look good in the videos, now she look hideous. Now it's broken crack pipes with lipstick traces. Walk the cold nights, red district places. She's seen more hotels and more tour suitcases. More male customers than only Avis. She love limelight more than John Swabies. Seen more miles than a renter Avis. She don't slow down, then someday maybe. She lost and she can't find her way to safety. Pimper's Paradise, that's all she wants now. Pimper's Paradise, that's all she wants. Pimper's Paradise. Check it out, she keep her head up in the space like a satellite, because she got an insatiable appetite for staying out late nights with all the parasites plotting on the way to cop a little piece of paradise. Her dignity the only thing that she can sacrifice. Just get the monkey off her back and she be back in like 5 minutes. She stay on the move, she done smoked up the stone that the builder refused. All coked up, alone, she ain't even in tune. And it's sad cause she ain't really have a reason to use. She was a pretty girl, cleaner than the board of health, studied and enjoyed herself. I don't know what drove her to avoid herself, destroyed herself and took a taste of the yay. And now she on the track working while she wasting away. It's safe to say she looking for some place to stay. Whoever got a load paper to play could get a slice of this Pimper's Paradise. Voilà, c'était Pimper's Paradise, Damien Marley. Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yemi Obadjimi a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Au micro, Morgane Guiriec
et Bagassi Koura.
Bon week-end à tous.
season, a season spliff was the first thing. One spring season while she's out flirting. Now she's seasoning and don't need rehearsing. Esteem get a beaten, life is uncertain. Ego need feeding, now the wants worsen. Beneath the demon, she's a warm person. When she's not fiending, swearing and cursing. Behind the curtain, she's really hurting. While her people don't even trust her at home, the dealer them grin and cook the rocks down. And she without sin will spark the first stone. The feeling kicks in, she's in the dark zone. Old friends walk past going about their own, as if she is someone that they don't know. Then the king of kings lift her off the floor, saying life is a thing when you learn.